Bienvenue au podcast des questions d'Alexis, l'espace où l'on discute de la place du marché du carbone dans l'atteinte des cibles climatiques. Je suis votre animatrice, Alexis, et aujourd'hui, on fait le point sur la situation de l'éco-blanchiment dans les marchés du carbone. Pour répondre à mes questions, je suis accompagnée de Martin Clermont, PDG de l'entreprise Les Solutions Will et expert en la matière, qui nous suit tout au long de notre série. Bonne écoute! Bonjour Martin, bienvenue à notre troisième capsule de notre série.
Bonjour Alexis, ça va bien aujourd'hui?
Oui, ça va bien toi?
Oui, absolument. C'est le début ou à la veille d'un week-end. J'ai un peu de sève automnale qui me monte en moi. Alors, les couleurs sont belles ici au Canada.
Oui, les couleurs sont très belles. J'espère qu'on va pouvoir en profiter ce week-end. On parle de l'éco-blanchiment aujourd'hui. Procédé marketing qui vise à donner à un produit une image verte, verte que je mets entre guillemets, alors que la majorité du budget est mise dans la publicité et non dans la minimisation des impacts environnementaux du bien ou du produit. On entend aussi souvent des accusations, qu'elles soient fondées ou non, d'éco-blanchiment à l'égard de certaines entreprises qui se disent être carboneutres. Donc, je me demandais, Martin, de quelle façon l'éco-blanchiment peut s'observer dans le contexte des marchés du carbone?
C'est un gros sujet, Alexis, aujourd'hui, franchement. C'est un sujet, comme tu as bien mentionné, à connotation marketing. Alors, ma première approche, je te dirais, écoute, moi, je suis de l'école de Newton, action égale réaction. Alors, tout geste a un impact. Alors, on voit dans la trame médiatique de plus en plus de produits ou de solutions qui sont carboneutres et ça m'interroge beaucoup. D'accord? À savoir si tout geste a un impact, ça veut dire toute action, tout produit va produire d'une manière ou d'une autre une quantité d'émissions de GES et autres résidus. Alors, dans ce contexte-là, je remarque aussi qu'il y a des critiques, des commentaires sur les réseaux sociaux à l'effet que, acheter des crédits de carbone, c'est faire du greenwashing. Alors, j'aimerais ça peut-être faire un petit récapitulatif là-dessus ou un point de vue, c'est quand on achète un crédit de carbone, quand quelqu'un achète un crédit de carbone, c'est une transaction qui a deux volets. Premier volet, il y a des réductions, et j'aime bien insister là-dessus, des réductions ou de la séquestration. Et de l'autre côté, il y a un achat d'un tierce parti ou d'un autre parti, que ce soit un citoyen, une municipalité, entreprise, banque ou gouvernement, qui va stimuler ou reconnaître les efforts de réduction. Alors, dans le mouvement ou dans ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, on dit que les crédits de carbone, c'est un droit de polluer, c'est une étiquette pour continuer à polluer. Alors, moi, j'aime bien citer beaucoup, beaucoup. Avant d'acheter, il y a des réductions qui sont faites. Et maintenant, là, on peut rentrer dans l'autre partie de l'équation. Toutes les réductions ne sont pas égales. Tous les achats ne sont pas faits au même prix et ça va être la difficulté ou finalement le chemin de l'acheteur ou de celui qui vend sa réduction du GES de trouver le prix qui est juste, équitable, qui va au-delà du seulement marketing. Voilà.
Oui, justement, tu parles un peu des prix, puis je me demandais, tu sais, on a déjà parlé du coût social du carbone dans nos précédentes capsules, puis la question qui m'est venue en tête, c'est un peu... est-ce que le coût social du carbone peut venir intervenir dans la diminution des risques de l'éco-blanchiment?
Bien, en tout cas, d'après moi, c'est un bon scénario de référence. C'est en anglais un bon benchmark. Alors, si je récapitule, le coût social du carbone, c'est le coût marginal de la prochaine tonne d'émission, non seulement sur les marchés du carbone, les taxes carbone, mais sur l'économie, la santé et l'environnement. D'accord? Essentiellement, à l'heure actuelle, ce qu'on a comme de structuré, au Canada tout au moins, on a des taxes carbone, on a des marchés réglementés, on a de la réglementation, exemple, pour interdire la vente de véhicules à énergie fossile en 2035. Donc, tout ça agit sur la tarification des émissions et de l'autre côté, ou en complément, je te dirais ce que je viens de te mentionner, la tarification réglementée, c'est le bâton, c'est l'obligation, c'est contraint, d'accord? Ça vient d'un palier gouvernemental. Et l'autre côté de l'équation, moi j'appelle de l'action climatique, c'est des réductions de GES qui sont valorisées et monétisées. Donc, si on fait l'addition des deux, tout ce qui est supérieur au-delà du coût social du carbone, ne peut être qu'un ticket pour le bon geste, l'équité sociale, anti-greenwashing.
Ouais, donc,
comme repère. Hein?
Oui, mais tu sais, tu as mis beaucoup d'emphase sur les réductions. Donc, de ce que je comprends, en fait, ce serait que on ne ferait pas de l'éco-blanchiment si, en tant que compagnie ou qu'organisme, que je veux contribuer à la carboneutralité dans mes actions. En fond, si je priorise la réduction de mes émissions puis en premier, puis après que je compense l'entièreté et même plus des émissions restantes qui sont dites incompressibles, mais dans ce cas-là, je ne ferai pas nécessairement du greenwashing, comme on appelle, puisque j'aurais réduit à la source mes émissions, puis j'aurais fait des efforts de mon côté avant de compenser directement les émissions.
Ben écoute, j'abonde dans ce que tu dis, Alexis. Moi, j'aime bien le petit mantra. Je mesure mes émissions, je réduis mes émissions annuellement et pour le reste, on appelle ça compenser, ce qui est incompressible. Je contribue aux efforts de réduction des autres de ma communauté. Je pense que cette trilogie-là, ce triangle-là, ne peut être que vertueux s'il est répété année après année.
Oui, absolument. Puis, avec la demande grandissante envers les marchés du carbone, comme on en a déjà parlé aussi, on a aussi mentionné aujourd'hui qu'il y a une variété de prix différents de crédits. Puis, je me demandais justement comment cette jungle-là d'offres et de prix va pouvoir opérer harmonieusement sans engendrer de problématiques au niveau de l'intégrité environnementale des projets.
Bon, très bonne question. La réponse n'est pas évidente et possiblement à construire au cours des prochaines années. Mais essentiellement, ce que je te dirais, c'est on revient toujours à tout geste a un impact, mais tout changement a un point de départ, un point d'arrivée qui est différent dans les contextes, dans les pays, dans les provinces auxquelles on se situe. Alors, à ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'on a une référence, est-ce qu'on a... un guide qui nous dit, bien, écoutez, une réduction de GES au Québec n'a pas nécessairement le même poids de changement qu'une réduction de GES au Mexique ou au Zimbabwe ou à Taïwan. D'accord? Essentiellement, le lieu de réalisation du projet est important à tenir compte. Ça veut dire la réglementation environnementale, ce qui est le bâton, les obligations réglementaires ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Nous, on évalue environ 2000 territoires, que ce soit par pays ou à l'intérieur des pays, des provinces, des États, des Länder en Allemagne ou des régions administratives en France. D'accord? Donc, il y a environ 2000, je te dirais, scénarios différents. Donc, le lieu de localisation est important. On parle aussi de la rigueur des réductions de GES ou de la séquestration. Ça veut dire comment c'est encadré tout le processus, on appelle ça MRV, Monitoring, Reporting et Vérification, tout le processus pour mesurer ton changement, les paramètres que tu prends pour le mesurer, comment tu as consolidé ça dans des calculs et comment ça a été vérifié, ça c'est important. Donc les programmes, il y a différents programmes internationaux dans les marchés volontaires, on a VCS, Gold Standard, CDM, CAR, ACR et il y en a d'autres, mais si je te nomme les principaux au niveau international. Il y a la nature des projets, c'est très important de comparer ou de tenir en compte, est-ce que j'ai un projet de réduction de GES? Ça veut dire que je contribue dans ma baignoire à arrêter le robinet pour pas que l'eau coule à l'extérieur, d'accord? J'ai aussi des projets de séquestration, ça c'est les serviettes ou les Scott Towels que je mets au bas du bain pour ramasser l'eau qui s'est déversée du bain. Et tu as les technologies d'ingénierie pour capter le CO2. Donc, pense à une pompe qui, dans le bain, va pomper l'extra puis l'envoyer dans ta cuvette. Donc, tu as ces trois types de projets-là. Et d'après moi, la priorité doit être avant tout, au niveau mondial, dans chacun de ces 2000 territoires, de réduire les émissions de GES. Ça va prendre de la technologie, ça va prendre du changement comportemental, puis ça va prendre du bâton et de la carotte.
Donc, je pense en tant que consommatrice ou que consommateur qui veut pouvoir contribuer à la carboneutralité, ce que tu viens de nommer, c'est des critères que je peux considérer lorsque je veux acheter des crédits pour m'assurer que je contribue de façon juste, selon ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ou ce sont vraiment les principaux sur lesquels je dois miser quand j'achète des crédits carbone?
Merci de me le rappeler. Oui, il y a deux autres critères qu'on peut considérer. Dans les projets de réduction, séquestration, même d'ingénierie, c'est bien de regarder quels sont les impacts de ces projets-là sur il y a des objectifs de développement durable des Nations unies. Il y en a 17. Donc, si le projet est en mesure d'amener une réduction de GES ou une séquestration, mais en plus stimuler un ou plusieurs des objectifs de développement durable, c'est encore plus vertueux. Et le dernier point, Alexis, est très important, dans la vente d'un crédit de carbone, quelle est la portion des revenus de crédit de carbone qui vont directement au projet, soit de réduction au projet de séquestration, et qui ne va pas finalement, je dirais, dans les marchés secondaires ou dans tous les processus liés à la monétisation. Alors, le maximum d'argent qui est retourné à ceux qui ont fait les efforts ne peut être qu'un choix éclairé et dans le sens, comme tu dis, équitable ou, je le dirais, anti-greenwashing. Je n'ai pas le bon terme. J'irai là-dessus pour l'instant.
Oui, ben oui. Puis, en fait, tu as soulevé un point que je trouvais intéressant sur le lieu du projet ou la localisation. Je me demandais, est-ce qu'on doit se concentrer sur des achats de projets locaux ou on peut encourager les efforts des pays du Sud global dans cette réduction des émissions mondiales? Parce que même si les réglementations entourant les réductions ne sont pas les mêmes partout, est-ce que ce serait un risque de contribuer à l'éco-blanchiment en achetant à l'international ou on peut quand même le faire puis ce serait bien quand même?
Bien, d'un point de vue d'éco-blanchiment, je dirais, si tu achètes, je pense pas nécessairement des soins, mais des corporations, tu vas acheter des crédits de carbone à l'international, mettons au sud, parce qu'ils sont moins chers et tu opères au nord, il y a un problème, à mon avis, d'éthique. Maintenant, en général, est-ce qu'on doit favoriser l'achat local versus l'achat international? Je pense que combiner les deux, c'est excellent. De tenir compte les deux, j'insiste beaucoup, l'achat local est important parce que tu stimules des efforts, de la conscience et des efforts de réduction dans ta communauté et ça crée un effet d'entraînement. Mais les deux sont utiles. Alors, c'est pourquoi Will a mis en place des solutions ou des offres de crédit carbone qui combinent soit des réductions avec des projets de séquestration de forêt boréale ou à la rigueur, on a même développé une trilogie, la réduction de GES faite localement avec des projets de séquestration dans une forêt boréale et avec une séquestration dans une forêt équatoriale, une combinaison des trois qui relie local avec le lien nord-sud.
Oui, parce qu'on doit dire que les projets de réduction, surtout en forêt puis en séquestration de carbone, mais ça, il y a quand même des co-bénéfices avec ça, sociaux et économiques. Ça fournit quand même aux gens des communautés des emplois, ça fournit aussi une certaine éducation de ces communautés-là, puis ça implique les gens. Donc, des fois, ça peut être aussi des bénéfices positifs pour les gens qui vivent dans les communautés du sud global aussi.
Sud, oui, absolument, sud. Oui, sûr, c'est des bénéfices de pouvoir soit travailler à faire du reboisement, mais aussi à conserver la forêt, qui est le milieu d'une communauté pour vivre. Alors, on pourra toujours considérer aussi profiter de la nature à son état non exploité, toujours bénéfique de notre santé mentale.
Oui, surtout, important. En France, encore à l'international, c'est interdit d'affirmer qu'un produit est neutre en carbone. C'est une mesure qui est mise en place justement pour mitiger l'éco-blanchiment. Mais récemment, au Japon, il y a une compagnie pétrolière qui a affirmé avoir vendu du gaz naturel liquéfié neutre en carbone. Je me demandais comment cette affirmation-là est reçue à l'international à l'heure actuelle.
Ben, à l'international, je ne sais pas, Michel, ça a fait beaucoup de commentaires, je pense, dans le newsletter électronique Bloomberg, dans sa section green. Écoute, je te dirais, c'est sûr, ça pose un problème, avoir un carburant fossile jusqu'à sa consommation qui est neutre parce qu'on a planté des arbres, conservé une forêt dans un autre pays. Ça pose des questions. Alors, le processus est de calculer l'empreinte carbone, de l'extraction du gaz, son transport, sa consommation, ça doit se faire, ça se fait. Compenser, calculer les émissions de GES séquestrées par la forêt, ça doit se faire. Moi, d'après moi, si l'industrie d'énergie fossile veut prendre la direction de carboneutralité, ça serait plus crédible pour elle qu'elle considère de financer des projets de réduction de consommation de ses produits d'énergie fossile dans son portfolio de carboneutralité. Ça me semblerait plus, moins porteur aux critiques de greenwashing. Puis concernant la publicité sur la carboneutralité en France pour limiter l'utilisation des termes produits carboneux, écoute, c'est une sensibilité liée à un pays, et je comprends très bien. On revient encore à l'élément fondamental. Un produit est fait de différentes matières et processus qui va de toute façon émettre des GES. Il ne sera jamais carboneux. Il va avoir des émissions de GES. Le fait de carboneutraliser ce produit-là ou le processus, ça veut dire qu'on va compenser en achetant des réductions ailleurs. Mais le produit ou l'activité continue à émettre des GES. Alors, on peut comprendre. Pas la confusion, mais la discussion sur les réseaux sociaux sur le greenwashing, et je pense qu'elle va prendre beaucoup d'ampleur dans la prochaine décade. Alors, il faut rester clair, penser à Newton, si on gagne réaction, et tout geste a un impact.
Oui, exactement. Il faut faire aussi attention, je pense, aux subtilités puis aux mots qu'on utilise. Là. C'est important aussi de savoir que tu as soulevé un tellement bon point que le produit en tant que tel émet quand même va émettre des gaz à effet de serre tout au long de sa vie, mais que c'est sûr que quand on compense les émissions, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que le produit n'a pas de GES en tant que tel. Puis je pense que ce qui avait aussi été aussi controversé par rapport à la compagnie pétrolière du Japon, c'est qu'elle avait acheté des crédits de carbone qui proviennent d'un projet de conservation de la forêt en Indonésie. Donc, oui. Je pense que c'est plus difficile de quantifier exactement combien de carbone va séquestrer une forêt qui est mature directement. En plantant un arbre, bien, on sait un peu mieux combien de carbone va être séquestré. Ce sont des projets qui sont importants, les deux, mais c'est plus difficile de quantifier vers le futur, je crois, comme ça.
Oui, il y a des enjeux de calcul et d'algorithmes qu'on utilise. Oui, il y a beaucoup de discussions à cet égard. Oui, tu as raison, Alexis.
Puis, je me demandais aussi justement comment les multinationales qui compensent leurs émissions achètent leurs contributions parce qu'elles émettent beaucoup puis elles compensent toutes leurs émissions. Et je me demandais comment elles soutenaient les projets puis comment elles les choisissaient.
Mais on a constaté, alors, dans la mise en marché de nos crédits de carbone, on a plusieurs entreprises, des petites et des grandes internationales, qui ont acheté chez nous. Et ce qu'on remarque, c'est que les compagnies qui ont des portfolios importants, 150, 200 ou 1 200 000 tonnes à compenser ou 1 million de tonnes, ces entreprises-là, à l'interne, c'est eux qui ont le choix de savoir qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils préfèrent, un combo de réduction, séquestration avec de la technologie d'ingénierie pour capter le CO2, un peu plus de ça. Du deuxième ou du troisième, c'est à la carte. Ils vont considérer aussi les impacts des crédits de carbone qu'ils achètent sur les objectifs de développement durable. Et un mouvement qu'on constate, ils vont vouloir compenser par territoire et par territoire les projets qui sont faits par territoire, de projets soit de réduction de séquestration, territoires qui sont liés à leur lieu d'opération. Alors, exemple, si une entreprise qui est active sur les 5 continents parce qu'elle a des méga data centers ou parce qu'elle a des activités de distribution de ses produits, elle va tenter dans son portfolio d'acheter pas seulement un projet, elle va acheter une série de projets dont chacun des projets vont être associés à son lieu, à un lieu, un continent. D'accord? Donc, on revient un peu à la notion locale. Donc, tu calcules ton empreinte carbone de toutes tes activités sur la planète, mais tu vas essayer de récompenser localement ou associer à ta communauté où sont tes opérations. C'est un exemple. J'aimerais ça rajouter, Alexis, ce n'est pas seulement les grandes internationales qui gèrent en portfolio. Il y a des PME, on s'en rend compte même au Québec, qui se sont engagés, suite à avoir fait une empreinte carbone, d'acheter des crédits de carbone sur une base locale. Alors, eux aussi commencent à regarder le type de choix de crédit de carbone et l'aspect local est très important, d'accord? Acheter des crédits de carbone pour valoriser son action, s'engager climatiquement, ils vont chercher des crédits de carbone qui sont produits ou réalisés ou séquestrés les émissions du GES au Québec, exemple.
Est-ce que tu penses que les accusations d'éco-blanchiment envers ces entreprises-là pourraient diminuer si elles étaient plus transparentes quant à la provenance, au prix puis à la quantité de crédits qu'ils achetaient puis le nombre d'émissions qui étaient compensées?
Absolument. La transparence est un antidote très fort contre le greenwashing. Ben oui, absolument. Le médiatiser, mentionner les actions, les achats, le commitment, comment ils ont fixé le prix pour leur... Absolument. Tu as tout à fait raison. Bon point. Ouais.
Puis j'ai vu récemment en fait que le comité indépendant des changements climatiques du Royaume-Uni a avisé le gouvernement que pas plus de 5% des émissions devraient être compensées au niveau international. Est-ce que tu crois que d'imposer un pourcentage comme ça de compensation des émissions, ce serait un moyen efficace pour éviter ou diminuer l'éco-blanchiment?
Écoute, je ne sais pas, Alexis, j'ai été surpris en entendant parler de ce 5%-là. Je reviens à tantôt ce que je t'ai mentionné. Je pense que le choix d'utiliser pour les citoyens des crédits de carbone qui sont réalisés, exemple, au nord et au sud, dans son panier de compensation de contribution climatique, c'est très bon. Maintenant, est-ce qu'on doit limiter un pourcentage ici pour les entreprises qui sont au Royaume-Uni d'acheter avant tout localement? Je n'ai pas de point de vue sur quel est le pourcentage juste. Ce que je remarque de ce que tu me dis, c'est que ça s'est mis en place. Alors, c'est une observation. Je n'ai pas de point de vue sur le pourcentage idéal. Mais les deux sont encouragés, local et combiné avec de l'international.
Puis donc, ce que je comprends, la morale de l'histoire, c'est qu'on réduit au maximum nos émissions avant de compenser. Puis c'est que sans réduction, on n'avance pas non plus dans l'atteinte des cibles climatiques.
Absolument, c'est très bien résumé. J'achète.
Merci Martin pour cette discussion. On se voit une prochaine fois.
Merci beaucoup Alexis. Bonne journée.
Bonne journée. Oui, bon week-end. Bye bye.
Si vous appréciez notre série, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.solutionwheel.com où vous trouverez une mine d'or d'informations sur les thèmes abordés dans cet épisode. À la prochaine!